RCF. Parole protestante sur RCF Anjou.
C'est Jean-Pierre qui vous présente cette émission en compagnie de Jean-Didier Rousseau ainsi que de Daniel et Bernard Delépine. Nous sommes tous quatre actifs à l'église protestante baptiste d'Angers, dite Communauté du Colombier. Bonjour à vous trois.
Bonjour.
Bonjour.
Nous allons parler d'un personnage biblique presque méconnu de tous, Obed Edom. Pourriez-nous situer le contexte de son apparition dans la Bible ?
Alors si vous êtes un lecteur du Premier Testament, ce que je vous conseille vivement, tant il y a de richesse pour nous aujourd'hui, nous trouvons souvent cette phrase. « Les enfants d'Israël firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et ils rendirent un culte aux idoles. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. » Étant donné que les Israélites abandonnaient le Seigneur, ils les laissaient vivre dans leurs erreurs, ils ne les protégeaient donc plus. Et les Israélites étaient à la merci de pillards, de peuples qui les prenaient comme esclaves ou les soumettaient à des impôts très forts. Alors ça durait 20 ans, 30 ans. Puis les enfants d'Israël en avaient tellement marre qu'ils criaient à nouveau au Dieu de leur père qui leur donnait des libérateurs. Ça durait encore un temps et puis ils recommençaient. Et c'était un cercle sans fin.
C'était pas un peu ce qui se passe avec nous parfois. J'ai l'impression que l'on vient aussi pleurer vers Dieu pour qu'il nous délivre de nos malheurs. Et dès que ça va mieux, on l'oublie, non ?
Ah oui, c'est exactement ça, Jean-Pierre. Nous ne valons pas mieux qu'eux. Hein. Il arrive que l'on fasse des promesses à Dieu afin de recevoir son secours ou un exaucement. Mais ces promesses sont très peu suivies d'effets. Nous trouvons toujours des excuses. Ah, je me suis couché tard, je suis allé danser ou j'étais sur mon téléphone ou ma tablette toute la nuit. Non, je vais pas aller à l'église ce matin. En fait, c'est un peu dire, Dieu, de toute façon, il peut bien attendre. Et puis, on oublie les promesses, on ne s'occupe plus du Seigneur et au moindre problème, on revient pleurer ou alors on se met en colère contre Dieu parce qu'il ne nous protège pas. Alors certains diront « Dieu me punit », mais pas du tout, il nous laisse vivre, il nous laisse même la liberté de commettre nos erreurs.
J'entends bien Bernard. Mais revenons au contexte de notre histoire, Jean-Didier.
Oui, alors les enfants d'Israël ayant abandonné Dieu, les Philistins, leur ennemi de toujours, sont entrés en guerre et ont subtilisé l'Arche de l'Alliance. C'est une catastrophe car l'Arche représentait la présence même de Dieu au milieu du peuple. Mais pour faire court, le fait de la présence de l'arche chez les Philistins va donner lieu à des choses incroyables. La statue d'un de leurs dieux tombe jour après jour dans leur temple. Vu les complications engendrées par l'arche, les Philistins de telle ville n'en voulaient plus. Ainsi, elle passe de ville en ville. Et vous savez quoi ? Parce que les habitants des villes où se trouve l'arche attrapent des hémorroïdes. Donc, ils refilent l'arche aux habitants de la ville voisine.
Pas
voilà.
Sympa.
Et voilà que maintenant, c'est eux qui ont des hémorroïdes. Bon, voilà, c'est quand même un peu amusant. Je trouve que le Seigneur a beaucoup d'humour. Enfin, après 7 mois de difficultés, comme ils en ont marre, on peut les comprendre, et ils veulent en même temps être certains que leurs malheurs sont dus à l'arche. Alors ils la mettent sur un char attelé par des bœufs, et ces derniers, ni une ni deux, vont en direction de Beth Shemesh, une ville israélite. Et de là, elle est amenée à Kiryat Yeraïm, où elle est restée une vingtaine d'années.
Ah oui, on a été visiter avec Daniel ces deux villes, c'est sympa.
Oh, j'ai vu deux photos de très belles villes historiques. Dites-moi, en quelles circonstances l'arche devait être installée à Jérusalem ?
Alors c'est David, qui était alors roi d'Israël, qui décide de la faire installer sous une tente près de son palais. Et voilà ce que dit une partie du texte de 2 Samuel 6. David rassembla l'élite d'Israël. Au nombre de 30 000 hommes, il se leva pour faire monter l'arche de Dieu devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui siège entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent l'arche sur un char neuf et l'emportèrent. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel sur toutes sortes d'instruments. Lorsqu'ils furent arrivés près de l'aire de Nacon, les bœufs firent un écart et Ouza tendit la main et saisit l'arche pour ne pas qu'elle tombe. Alors l'Éternel se mit en colère contre Ouza et le frappa sur place à cause de sa faute. Ouza mourut là, à côté de l'arche. David éprouva de la colère à cause d'un tel châtiment. Et ce jour-là, David prit peur de Dieu et il se demanda « Comment oserais-je faire venir l'arche de l'Éternel chez moi ? Il renonça donc à transporter l'arche chez lui, dans la cité de David, et il a fait d'y poser dans la maison d'Obed-Edom.
Ça ne rigolait pas, dites donc.
Ah ouais, c'est vrai que c'est un peu bousculant, Jean-Pierre, mais on verra peut-être plus tard pourquoi ça s'est passé ainsi. À ce stade, il faut signaler que David avait une bonne idée, qui d'ailleurs plaisait, je pense, à Dieu, mais la réalisation était complètement à côté des ordres que Dieu avait laissés à Moïse concernant le transport de l'arche. David a cru bien faire, comme nous croyons nous aussi parfois bien faire dans nos églises, dans nos groupes ou individuellement. Nous avons parfois de bonnes idées, mais de mauvaises réalisations.
Que voulez-vous dire par là, Bernard ?
Ben, que la fin ne justifie pas les moyens. Je prends par exemple un homme que j'ai connu hein, personnellement. Ah, il avait vraiment à cœur d'annoncer l'évangile à tout le monde. Et pour ce faire, il allait dans des bars gays. C'était aussi un peu de la provocation. Hein. Il allait aussi témoigner aux nudistes. Nus comme eux, vous savez, pour une approche plus facile, si vous voyez ce que je veux dire. Eh ben, il avait de bonnes intentions, mais alors la mise en œuvre n'était vraiment pas la plus appropriée.
Oui, bon, on peut en rire, mais sans aller jusqu'à ces exemples si particuliers, on peut souligner l'exemple des pharisiens, dont était issu Saul de Tarse avant de devenir l'apôtre Paul. Alors Jésus ne les a pas épargnés, hein, écoutez plutôt. N'imitez pas leur façon d'agir, car ils ne mettent pas en pratique ce qu'ils enseignent. Ils attachent de lourds fardeaux, difficiles à porter, et les mettent sur les épaules des hommes, mais eux-mêmes refusent de bouger un doigt pour les aider à remuer ces fardeaux. Malheur à vous, maîtres de la loi et pharisiens, hypocrites! Vous fermez la porte du royaume des cieux devant les hommes. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous ne laissez pas entrer ceux qui le désirent. Et Jésus va jusqu'à les traiter de sépulcres blanchis, beaux à l'extérieur, mais pourris à l'intérieur.
Daniel ?
Oui, alors ces religieux, y compris Paul, étaient sincères dans leur pratique, mais ce n'était pas ce qu'attendait Dieu. Nous pouvons tous nous poser la question pour nous-mêmes. Lorsque je partage l'évangile, est-ce que pour des personnes rencontrent le Seigneur ou pour me prouver que je suis bon dans ce domaine ? Ou est-ce que c'est pour remplir mon église ? Lorsque je prie pour les malades, est-ce que c'est pour qu'ils soient guéris ou pour prouver que j'ai un don ? Lorsque je prophétise, est-ce pour être juste le canal de la pensée du Seigneur ou pour être valorisé ? Alors oui, j'aime le Seigneur, mais mes conceptions et mes pratiques sont-elles en adéquation avec ce qu'il attend vraiment ?
Ce sont en effet de bonnes questions à se poser de temps à autre. J'ai entendu dans la lecture de Daniel tout à l'heure que le nom d'Obed-Edom avait été cité. Est-ce que quelqu'un pourrait nous le présenter ?
Oui, mais juste avant, est-ce que je peux revenir un peu sur la colère de David, vite fait ?
Oui, bien sûr.
Merci. Ben, David était tout heureux de sa bonne idée, je disais tout à l'heure, de faire monter l'arche à Jérusalem. Mais voilà, un drame inattendu arrive. La colère de David éclate. Il trouve Dieu injuste et il en a peur. Hein. Il ne veut plus de l'arche chez lui. Et puis, finalement, on peut dire qu'il boude, hein. On peut aisément l'imaginer rentrer à Jérusalem avec ses troupes de musiciens et son armée. Ben, tous sont dépités. Hein. Je le relève car il nous arrive à tous de ne pas comprendre Dieu. Pourquoi il n'agit pas ou pourquoi il fait comme ça ? Nous aurions eu une autre idée, peut-être même meilleure que la sienne. Hein. Je pense que c'est important de soulever ce fait, au moins par souci d'honnêteté envers nous-mêmes. Est-ce que, et y a une question qui se pose, pensez-vous que Dieu est plus exigeant qu'il n'est amour ? Êtes-vous furieux contre lui du fait d'un décès ou d'une maladie inacceptable ? On peut se mettre en colère contre Dieu, ça l'effraie pas, lui, et il ne nous en veut pas, il attend patiemment et avec amour que l'on revienne vers lui, par expérience, il même parfois prêt à une explication.
Eh bien, merci pour cette précision, Bernard. Finalement, nous allons faire notre pause musicale maintenant pour revenir ensuite à Obed-Edom, le béni, et de sa vie de prière. Écoutons le groupe canadien Impact qui interprète « Mon secours est en toi ».
Créateur des étoiles, chance, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets, toi seul est mon Dieu, je proclame.
Parole protestante sur RCF Anjou.
Suite de notre émission Parole protestante sur RCF Anjou, nous sommes toujours en compagnie de Daniel, Jean-Didier et de Bernard. Nous parlons de l'extraordinaire vie de prière d'un nommé Obed Edom le Béni. Alors, qui nous le présente ?
Vous savez que les prénoms bibliques ont une signification. Celui d'Obed signifie serviteur. Et on lui a peut-être ajouté Edom qui signifie roux à cause de sa couleur de cheveux. Il était de la tribu de Lévi, donc des prêtres, et en plus il était musicien. Comme on l'a lu tout à l'heure, après le drame de la mort d'Ouza, l'arche a été mise sur lui, chez lui. Si le roi David était en colère contre Dieu et en avait peur, il est à penser que Obed était certainement heureux de recevoir l'arche chez lui.
Comment peut-on être aussi affirmatif ?
Du fait de sa relation avec Dieu, Jean-Pierre.
Oui, mais le texte ne nous dit rien sur sa vie de prière.
C'est exact. C'est pourquoi il faut aller creuser dans les Écritures et chercher quelle est sa descendance. Et nous la trouvons dans le premier livre des Chroniques au chapitre 26. Vous vous souvenez qu'Obed veut dire serviteur ? Alors cherchons la signification des prénoms de ses enfants. Souvent, dans le Premier Testament, nous pouvons comprendre la situation en nous attachant à la signification des prénoms. Heureusement, cette manière de faire nous permet de voir l'état d'esprit de cet homme.
Avoir la signification des noms, j'aime bien l'idée. J'aimerais commencer si vous voulez bien.
Mais allez-y Jean-Pierre.
Bien, merci. Je vois que son premier-né s'appelle Shemaïa, ce qui signifie « l'Éternel a entendu ». Qu'est-ce que l'Éternel a entendu, sinon les prières d'Obed ? On ne sait pas ce qu'il a demandé. Peut-être que sa femme était stérile et qu'il lui a demandé des enfants, ce qui serait fort probable vu la signification des prénoms. Il me semble que la Bible nous rapporte pas mal de fois des situations de stérilité et de la souffrance qu'elle engendre pour les couples. Le dernier dont nous parle la Bible à ce sujet, ce sont les parents de Jean le Baptiste, Zacharie et Élisabeth. Je pense aussi à ce verset dans la Genèse. Isaac pria parce que sa femme était stérile et Dieu l'exauça. Ça paraît simple, mais à y regarder de plus près, entre le mariage et la naissance d'Ésaü, il y a eu 20 ans qui se passent, hein, je crois. Mais revenons aux enfants d'Obed, Daniel.
Alors le deuxième s'appelle Yehozabad, ce qui signifie « l'Éternel a accordé ». C'est le témoignage d'avoir reçu un bienfait. Et si sa prière concernait le fait d'avoir des enfants, peut-être qu'il ne s'attendait pas à en avoir un deuxième, le premier tenant déjà du miracle.
Oui, il y en a un troisième qui arrive. Celui-ci est appelé Obed-Yoa, ce qui signifie « l'Éternel est frère ». Waouh, c'est véritablement une intimité qui se vit entre eux. Comment est-ce possible, on peut se demander, surtout en ces temps-là, d'appeler un de ses fils l'Éternel est frère ? On voit au travers de ce prénom qu'il y a une progression dans sa relation entre Obed et Dieu. Une complicité entre eux s'installe au fur et à mesure des naissances.
Vous ne pensez pas si bien dire. Le quatrième fils, c'est Sakar, qui veut dire solide. On pourrait dire aussi consolidé. Obed-Edom déclare par ce prénom la solidité ou la consolidation de sa relation avec Dieu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ce n'est pas rien.
Ah bon, c'est pas rien. Et puis voilà qu'un cinquième fils arrive, c'est Nétanaël qui signifie « Dieu a donné ». Dieu l'a béni au-delà de toute espérance. Et cela me fait penser à un verset qui se trouve dans l'épître aux Éphésiens au chapitre 3 et qui dit « Dieu peut réaliser infiniment au-delà de ce que nos prières peuvent demander ou que nos prières peuvent imaginer ou oser espérer. » Je répète, pour être plus simple, Dieu peut réaliser infiniment au-delà de tout ce de ce que nos prières peuvent demander et ou que notre imagination peuvent espérer. On voit qu'Obed-Edom n'a cessé de croître dans sa vie de prière et d'intimité relationnelle avec l'Éternel Dieu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais à chaque fois qu'il appelle un de ses fils, pour une raison ou une autre, par exemple à table, il se souvient des exaucements de Dieu et de sa relation avec lui.
Et l'arche dans tout ça?
Les Écritures nous rapportent que l'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Edom, et l'Éternel le bénit, lui et toute sa maison. On fit un rapport au roi David. L'Éternel a béni la maison d'Obed-Edom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Alors on ne sait pas au juste à quoi fait allusion la bénédiction reçue par Obed durant ces 3 mois. Peut-être que ces cultures ont eu un rendement miraculeux, son élevage s'est multiplié. En tout cas, les voisins ont constaté qu'il y avait une bénédiction particulière depuis que l'arche était chez lui. Un sixième enfant, pourquoi pas?
Vous ne pensez pas si bien dire, Daniel. Car durant ces 3 mois, Obed a eu un autre fils.
Je voudrais bien sûr de vous, Bernard. Pourquoi durant ces 3 mois précisément?
Parce que son sixième fils s'appelle Amiel, qui signifie « Dieu est un membre de la famille ». Alors je vous l'accorde, c'est suggestif, mais j'en suis convaincu. Obed n'a pas mis l'arche de l'Alliance de Dieu dans la grange, ni l'étable ou dans un débarras, mais certainement à la meilleure place dans la maison, et pourquoi pas au beau milieu du salon de la maison, si salon il y avait en ce temps-là. Non, en tout cas, l'arche n'était pas dans un placard, mais à une place de choix et vraisemblablement où la famille vivait. C'est pour ça qu'il appelle le fils Amiel. Dieu est un membre de la famille. On pourrait même dire Dieu est membre à part entière de la famille.
Voilà qui est vraiment bluffant.
Oui. En fait, Obed a honoré Dieu, son ami, son frère. On l'a vu avec un autre fils, en le mettant, lui ou sa représentation, à l'endroit central de la maison. J'imagine cette présence de Dieu, tant redoutée par le roi David, qui était fâché, cette présence de Dieu au milieu des enfants qui courent, qui jouent, témoins de disputes parfois, mais aussi de rigolades. Dieu est membre de la famille à part entière. Il est au milieu de cette famille quand celle-ci mange, quand les gens vont se coucher ou reviennent du travail, lors des temps de prière en famille. Dieu se sent tellement à l'aise dans cet environnement, pour le moins très très loin du temple sacré, des courbettes, de l'encens, des sacrifices, de la religiosité, j'en passe. Dans les faits, je pense que Dieu est très heureux d'être dans cet environnement. Il est béni, lui aussi, comme l'est d'une autre manière Obed. Cette bénédiction, nous l'avons vue, est visible à tous les voisins. Dès lors, Jean-Pierre, une question se pose à nous. Est-ce que nous mettons Dieu à la plus belle place dans nos vies? Est-ce qu'il est central dans notre vie de couple, dans notre vie de famille, dans notre travail, dans nos loisirs? Et la liste pourrait encore s'allonger aisément.
C'est fou ce que ce récit vient de nous rejoindre, des siècles après. Vous avez raison de nous poser ces questions, à nous d'y songer et d'y répondre dans l'intimité de nos prières.
Parole protestante sur RCF Anjou.
Nous abordons la dernière partie de notre émission sur l'extraordinaire vie de prière et d'intimité d'Obed Edom, dit le béni. Dites-moi, il n'a pas gardé l'arche chez lui durant des années, Jean Didier ?
Non, Jean-Pierre, le roi David ayant appris les bénédictions que Dieu donnait à Obed, il est revenu chercher l'arche chez lui.
Il n'était pas plus fâché, alors il n'avait plus peur.
Ouais, faut croire que non. Et il avait dû faire des recherches et s'apercevoir qu'il n'avait pas suivi les instructions, les prescriptions que Dieu avait données à Moïse concernant le transport de l'arche. Alors, celui-ci devait se faire, non, avec un char, hein, même s'il était neuf, hein, tiré par des bœufs, non, non. Il fallait que l'arche soit portée par des lévites. D'ailleurs, David en est conscient, puisqu'avant de repartir chercher l'arche, il appelle les chefs des prêtres et leur dit « Vous qui êtes des chefs de famille lévitiques, purifiez-vous, ainsi que les membres de vos familles, puis allez chercher le coffre du Seigneur, du Dieu d'Israël, pour l'emmener à l'endroit que j'ai préparé pour lui. » La première fois, vous n'étiez pas là, et à cause de cela, le Seigneur notre Dieu nous a porté un coup mortel. En effet, nous ne l'avions pas consulté selon les règles. Alors moi, je trouve intéressant et pertinent cette réflexion, et qui prouve que la première fois, il n'a pas fait comme les Écritures lui disaient de faire. Il a fait à sa façon. Tiens, pour honorer Dieu, eh ben, nous allons mettre sa présence sur un char neuf tiré par les plus beaux bœufs. Alors, bah oui, bah on le disait tout à l'heure, Dieu ne se contente pas des meilleures intentions que nous avons. Il veut que les choses soient faites et vécues comme il a ordonné. David a dû se dire, mais pourquoi ça nous est arrivé? Cherchons à comprendre. Et avec l'aide de ceux qui avaient la connaissance des Écritures, il s'est rendu compte qu'il était complètement à côté de la plaque. Bon, nous n'allons pas le critiquer, car nous aussi, nous agissons parfois un peu comme lui. Avec de bonnes intentions, mais à côté de ce qu'il veut. C'est une des raisons, mais pas la seule, de l'importance de lire les Écritures, la Bible.
Pour revenir au fils d'Obed et d'Homme, je suppose Camille, c'est son dernier fils, Bernard.
Ah non, non, Jean-Pierre, il y en a d'autres. Le septième s'appelle Issachar, qui signifie « il donnera un salaire ». Comme s'il y a un salaire, ou plutôt une sorte de récompense qui découle de notre confiance en Dieu, de notre amour pour lui, de la complicité et de notre intimité avec lui. Entre autres, au travers de la prière. C'est un peu ce qui est dit d'Abraham et de sa confiance en Dieu. L'épître de Paul aux Romains dit par exemple que Abraham eut confiance en Dieu et Dieu le considéra comme juste en tenant compte de sa foi. Celui qui travaille reçoit un salaire, mais ce salaire ne lui est pas compté comme un don gratuit, il lui est dû. C'est donc une espèce de récompense qui est due. L'épître aux Romains, d'ailleurs, en rajoute une couche, si je puis dire ça comme ça, et dit « Mais personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. En effet, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. »
On termine avec ce septième fils.
Et non, car il en vient un petit dernier, le huitième, qui se prénomme Péultaï, qui est là comme pour clore ce récit, car son nom signifie « car Dieu l'avait béni ». D'où aussi son qualificatif d'Obed-Edom, le béni. On dirait que cette huitième naissance est un testament, une conclusion heureuse. Ce prénom me fait penser à ce que disait le roi David au psaume 37. « J'ai été jeune et maintenant je suis vieux, mais je n'ai jamais vu quelqu'un qui obéit à Dieu Resté sans secours, je n'ai jamais vu ces enfants mendier leur nourriture.
Ça laisse rêveur, Daniel.
Ah ben justement, Jean-Pierre, notre attitude de foi est appelée à provoquer en ceux qui nous entourent et nous écoutent une sainte jalousie. Moi aussi, je veux ce que tu as, vivre ce que tu vis avec le Seigneur.
Rien à voir avec ces enfants, mais dites-moi, Obed ne devait pas être très content que le roi David vienne chercher l'arche. Elle s'en va de chez lui, alors au revoir la bénédiction.
Non, non, je ne crois pas qu'Obed ait vu les choses ainsi. C'est un autre de ses points forts. Il accepte que l'arche quitte son domicile pour que celle-ci soit à Jérusalem et que la bénédiction qui était sur son foyer et ses biens puisse s'étendre sur le pays entier. Il n'a pas gardé jalousement juste pour lui la bénédiction, mais il a fait en sorte que d'autres en profitent, si on peut dire ainsi. D'ailleurs, Obed-Edom était du voyage jusqu'à Jérusalem. Les Écritures précisent qu'il jouait de la musique sur une harpe à notes graves. Cette attitude doit aussi nous questionner sur notre propre attitude. Acceptons-nous de perdre une ou des bénédictions personnelles afin d'enrichir d'autres, l'Église, la ville, le pays qui en bénéficie.
Supposons que c'est bien par une demande à avoir des enfants qu'Obed a commencé son périple. Il en a eu 8, hein, si j'ai bien compté. Est-ce que sa vie spirituelle a eu un impact sur ses enfants ?
Ah oui, alors, un peu comme une cerise sur le gâteau, hein, la bénédiction d'Obed est transmise à ses descendants. La Bible nous apprend que, je cite, « son fils aîné Shemaïa a des fils qui ont des positions importantes, que ces hommes de la famille d'Obed-Edom, ainsi que leurs fils et d'autres parents, sont tous des hommes de valeur, pleins de courage dans leur service. Ils sont 62 en tout, précise encore les Écritures. Oui, la bénédiction s'est étendue sur les générations suivantes. »
C'est tout simplement magnifique. Daniel, vous voulez conclure ?
Oui, alors juste un mot sur le fait qu'à l'instar d'Obed-Edom, c'est souvent sur nos crises les plus profondes qu'émergent les plus belles pages de notre histoire personnelle ou communautaire.
Oui, vous avez raison, Daniel. Et c'est très encourageant vu ainsi. Pourriez-vous nous rappeler des références bibliques ?
Alors, les références se trouvent au premier livre de Samuel, au chapitre 6, et au premier livre des Chroniques, au chapitre 26.
Merci à vous trois. Notre émission sur la vie de prière d'Obed-Edom le béni s'achève. Et si je devais retenir deux idées fortes de nos échanges, ce serait que Dieu se plaît à nous attirer à lui avec passion comme fiancé pour sa belle, qu'à l'instar d'Obed-Edom, nous aussi nous pouvons ou devrions faire de lui un membre de notre famille à part entière.